Radio Kapi. Oh, Kapi.
Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation.
Le M23 occupe depuis dimanche la localité de Kamandi-Guité, située sur les rives du lac Édouard, territoire de Lubero. Dans ce journal, Martial Papimoukeba revient sur l'importance stratégique et économique de cette localité du Nord Kivu. SOS des habitants des quartiers Eradi et Ngafani, commune de Selembao ici à Kinshasa. Depuis le 19 octobre, une partie du grand collecteur qui canalise les eaux sur l'avenue Tsanga Nord a cédé, créant une tête d'érosion. Des maisons commencent déjà à être englouties. Ces habitants en appellent à l'intervention urgente des autorités. Monsieur l'abbé Kanozir et Boniface est l'invité de ce journal. Il revient sur la cause de la béatification en cours au Saint-Siège à Rome de l'ancien archevêque de Bukavu, Monseigneur Mouzéi Rwamwenengabo Christophe. Il avait été assassiné le 29 octobre 1996 à Bukavu, au sud Kivu. Bonjour à tous. Nous commençons par le Nord Kivu. Le M23 occupe depuis dimanche la localité de Kamandi-Guité, située sur les rives du lac Édouard, à 10 km de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero. Cette localité revêt une importance stratégique et économique capitale. Les explications avec Martial Papimoukeba.
Kamandi-Guité est un point d'accès lacustre qui relie plusieurs villages situés au bord du lac Édouard, dont la localité de Kavinyonge dans le territoire de Beni. Depuis Kamandi-Guité, il est possible de rejoindre la localité de Kassindi-Port, offrant ainsi un passage vers la frontière stratégique de Kassindi-Lubiria. Ce point permet également d'accéder à Kiondo et au centre de Lubero pour atteindre la région du Graben dans le territoire de Beni. L'occupation de Kamandi-Guité et de Vichumbi par les M23 permet aux rebelles d'exercer une influence sur le contrôle du trafic sur les lacs Édouard, ce qui leur offre la possibilité de percevoir des taxes illégales sur des dizaines de milliers de pêcheurs. Les rebelles du M23 ont ouvert un nouveau front dans les territoires de Walikale et continuent leur progression dans celui de Lubero, malgré des avancées dans les processus de paix de Luanda. Des experts de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un plat de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR, un accord qui nécessite encore la validation des ministres des Affaires étrangères des deux pays lors de la prochaine réunion prévue le 16 novembre à Luanda. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, dans le territoire de Beni cette fois-ci, le poste frontalier de Kassindi-Lubira, situé à 90 km de la ville de Beni, fait face depuis quelques semaines à une montée de l'insécurité. Des quartiers entiers vivent sous la menace constante des voleurs à main armée et des cambrioleurs. Pour y faire face, la société civile du groupement de Basongora recommande au gouvernement provincial de renforcer les effectifs militaires et policiers ainsi que le matériel mobile. Elle salue également les efforts déployés ces derniers temps par les forces de l'ordre pour mettre fin à cette insécurité. Kino Katour, vice-président de la société civile, explique au micro de André Kitenge.
Les sous-noyaux de la société civile Force Vive du groupement de Basongora félicitent la force de l'ordre de Kassindi pour avoir abattu 3 bandits de grand chemin à l'intervalle de 10 jours. Plus de 10 civils blessés, 40 maisons visitées, c'est-à-dire par jour, 4 maisons sont visitées dans presque tous les quartiers de Kassindi. La puissance de ces bandits surpasse l'effectif et les moyens de nos éléments de l'ordre. Pour ce, nous sollicitons d'urgence la convocation d'une réunion de sécurité élargie pour que, ensemble, nous prenions des mécanismes sécuritaires afin d'éradiquer cette hémorragie qui bat record ici à Kassindi. Nous sollicitons un bouclage sans exception, l'identification de toutes les maisons de tolérance et de vente du chanvre. Nous sollicitons le renforcement en effectifs militaires, policiers et matériel mobile par le gouvernement provincial. Trop c'est trop, nous sommes fatigués par ce banditisme urbain.
Pendant ce temps de violents combats opposent depuis la matinée de ce lundi les M23 aux combattants VDP Wazalendo autour de l'agglomération de Kaira dans la chefferie de Bachali dans le territoire de Masisi. Selon plusieurs sources dans la région, les combattants du M23 venus probablement de trois axes, notamment Kasopo, Boutale et Kirumbu, ont attaqué le centre de Kaira à l'aube. Ils auraient délogé de la colline Buhimba dans la matinée les combattants combattants de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, ANCDH, de Jean-Marie Bonané. Les habitants redoutent l'intention du M23, soutenu par le Rwanda, de vouloir avancer vers le chef-lieu du territoire de Masisi. Et puis en Ituri, plus de 11 700 déplacés vivent sans assistance depuis près de 3 ans dans le site de l'ISP à Bounia. D'après des témoignages recueillis sur place, ces personnes qui ont fui les exactions des miliciens depuis au moins 6 ans dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ces déplacés qui attendent désespérément le rétablissement de la paix dans leur village d'origine disent être carrément abandonnés par le gouvernement. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
Quand on entre dans le site des déplacés de l'ISP Bounia, ça sent la misère. Cette phrase est connue de tous ici. Des abris en lambeaux, dont certains faits avec des bâches datant de 2019. Pas de nourriture, ni de vêtements. La dernière assistance humanitaire est intervenue dans ce site il y a environ 3 ans. Samuel Ngouna, un enseignant, vient de passer une année et demie dans ce site.
Je n'ai jamais vu l'assistance depuis que je suis dans une ville où nous n'avons jamais été. Ça nous crée des problèmes. Le fait d'aller chercher et revenir, mais au village, à part l'enseignement, on vivait très bien.
Imani Sifa Georgine, une autre déplacée, déplore que les déplacés d'autres sites reçoivent régulièrement une assistance en vivres, mais pas eux.
Nini, pourquoi les déplacés de Telega et Katoto sont souvent assistés et nous du site de l'ISP et Kigonze, on ne nous assiste plus? Et ce sont seulement les déplacés de Telega, Mbala, Katoto et Katirogo qui méritent de l'assistance? Que les autorités nous le disent. Et si c'est le cas, qu'ils nous garantissent la paix dans nos villages et organisent notre retour.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, n'ont pas abouti. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, c'est le désespoir pour de nombreux habitants vivant à la frontière des quartiers Eradi et Ngafani dans la commune de Selembao. Depuis le 19 octobre, une partie du grand collecteur qui canalise les eaux sur l'avenue Tsanganor a cédé, créant une tête d'érosion. Depuis, ils n'ont plus accès ni à l'eau potable ni à l'électricité. Des pans de parcelles sont engloutis dans cette grande crevasse. Des parties de certaines maisons restent suspendues dans le vide. Plusieurs familles quittent déjà le coin, mais ceux qui y restent, puisque ne sachant où aller, appellent à l'aide pour combattre cette érosion qui est encore à son début. Étienne Lissumbu et Babel Mpongo nous en parlent dans ce reportage.
Nous sommes sur l'avenue Tsanganor ici. Depuis le 19 octobre, la terre continue de s'écrouler. De nombreuses personnes abandonnent leurs habitations, craignant pour leur vie. C'est le cas de Michel et sa famille.
Là où il y a l'érosion, c'est pour ça que nous sommes en train de détoler, parce qu'il n'y a pas moyen encore d'habiter à Célé ici. Nous sommes logés chez les voisins.
Autre problème, depuis cette pluie, cette partie n'a ni eau de la régie des eaux ni électricité. Mais bien au-delà, un autre danger les guette. Pierre Yembi, promoteur de l'école Le Canon.
Il y avait tout au long de ces gros collecteurs des tuyaux d'eau, des poteaux de la SNEL, tout est parti. Alors, un sérieux problème encore depuis la haute tension de la SNEL, c'est à 10 mètres, la grande route bypass qui amène Kinshasa, Congo. Centrale, c'est à 100 mètres.
Le bourgmestre de Selembao appelle ses habitants au calme. Mathias Womumu.
On a effectué double descente avec l'agence congolaise des grands travaux et une société chinoise Sopeco qui était venue évaluer le dégât pour qu'il commence les travaux. Ils m'ont demandé qu'on puisse dégager d'abord les câbles de la SNEL. J'avais déjà saisi les responsables de la SNEL pour qu'ils puissent dégager les câbles pour que cette société commence les travaux.
Rappelons que ces grands collecteurs d'eau reliant les communes de Mongafula et Selembao a été construit en 1981.
Au Kasaï central, la nouvelle société civile congolaise attend voir dans le budget 2025 sous examen la prise en compte des projets en souffrance d'exécution dans cette province. Dans une déclaration faite ce lundi, le coordonnateur de cette structure appelle les députés élus du Kasaï central à s'y impliquer, surtout à se battre pour l'électrification et le désenclavement de leur province. Albert Ngalamouloumé est dans ses propos recueillis par François Kadima.
Nous voulons, nous en tant que société civile, que les problèmes, les projets du Kasaï central soient pris en compte dans ces budgets exercice 2025. Nous avons beaucoup de projets qui ont connu faible taux d'exécution. Certains n'ont même pas connu un simple début d'exécution. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été inscrit dans les budgets des exercices passés. C'est pourquoi nous voulons que cette fois-ci, que les parlementaires, que les élus puissent marteler sur ces points pour que nos projets soient inscrits inscrit dans les budgets, que les projets trouvent leur financement dans les budgets de notre pays. Nous avons, par exemple, le projet de la modernisation, la construction et la modernisation de la route Kananga-Lamamouge. Ces projets qui piétinent par manque de moyens, le projet de la construction de la route Kananga-Mbujimayi et Kananga-Lavarie urbaine. Il y a même le projet de Katende, la construction du barrage hydroélectrique de Katende. Il y a aussi le barrage de Mbombo.
En plus bref, report pour le 18 novembre courant du procès relatif au présumé détournement de fonds destiné à la construction des forages et à l'installation des lampadaires. La Cour de cassation de la RDC, siégeant en matière répressive à la prison centrale de Makala, devait ouvrir ce procès ce lundi 4 novembre selon l'extrait de rôle signé par le greffe pénal de cette haute juridiction. Deux prévenus devaient comparaître selon le même communiqué. Il s'agit de l'ancien ministre du Développement rural, François Robota, et de Mike Kasenga, patron du consortium Steve Construct Cameroun, SRL et Sotradwater. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, n'est pas convoqué par la justice.
Actualité internationale.
Au Mozambique, le principal opposant Venancio Mondlane a affirmé ce lundi avoir été victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, où il avait trouvé refuge après les élections dont il conteste les résultats publiés le 24 octobre dernier. Selon lui, des assassins étaient à sa porte pour le tuer. Il a dû fuir par la porte arrière, filer vers un salon de coiffure du quartier de Sandton, près de Johannesburg, courir avec ses sacs et sa famille. En réaction, le ministère des Affaires étrangères sud-africain a déclaré ce lundi toujours à l'agence France-Presse n'avoir aucune connaissance de la présence de Venancio Mondlane en Afrique du Sud.
L'invité.
Le 29 octobre dernier, c'était le 28e anniversaire de l'assassinat de l'archevêque de Bukavu, Mgr Muzihirwa Mwenengabo Christophe. Il a été abattu le 29 octobre 1996 en plein centre-ville du quartier Nyawira à Bukavu. La cause de sa béatification est en cours au Saint-Siège à Rome. Pour en parler, nous recevons dans ce journal M. l'abbé Kanozire Boniface, qui fait le suivi de cette cause en sa qualité de vice-postulateur de la cause Muzihirwa. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Abbé Boniface Kanozire, bonjour.
Bonjour Jean Kassami.
L'archidiocèse de Bukavu a commémoré les 28 ans depuis l'assassinat de Mgr Muzihirwa. Vous avez introduit un dossier pour demander que Muzihirwa soit béatifié. Peut-on savoir comment évoluent ces dossiers-là?
Oui, nous avons introduit les dossiers au niveau des Saint-Sièges. Pratiquement en 2021 que nous avons commencé la phase romaine, après avoir terminé ce qu'on appelle la phase diocésaine. Mais quand on compte les années, Rome prend la phase diocésaine comme une phase préliminaire. Et donc, il ne faut pas compter comme si la cause a commencé en 2016, même si c'est à ce moment que nous avons commencé les travaux. Mais il faut comprendre que la cause a commencé en 2021, à partir du moment où elle a été acheminée à Rome. Bon, la cause évolue bien. Nous n'avons pas jusque-là eu d'obstacle pouvant nous faire penser qu'il y aurait quelconque blocage par rapport à la cause. Je suis en contact avec le père Sylvestre Tchebolada, qui est d'abord le postulateur général de la Compagnie de Jésus, donc des Jésuites. Donc, qui suit toutes les causes des jésuites au monde, mais aussi qui suit la cause de Muzihirwa lui-même qui fut jésuite. Et le père est optimiste, il dit que la cause avance. L'unique souci que nous avions a été levé, il fallait réunir une affaire de 183 écrits, comprenant alors des lettres personnelles, comprenant des lettres pastorales, comprenant des brochures, comprenant des livres, comprenant des revues, parmi lesquelles ce que Monseigneur a écrit, on appelle ça scriti editi, et ce qu'on a écrit sur Monseigneur, scriti non editi. Et donc, il fallait réunir cela. Nous avons fait un effort pour consulter les grandes bibliothèques de la place, bibliothèques ecclésiastiques, à savoir la bibliothèque d'abord du Grand Séminaire Théologal de Moressa, la bibliothèque du Collège Alfagiri, des archives de la Kiri diocésaine à Bukavu, la bibliothèque des jésuites à Lubumbashi, la bibliothèque des jésuites à Kinshasa, mais aussi les archives diocèse de Kasongo où il a vécu. Et jusque-là, nous avons réuni que, je crois, 113 écrits de Muzihirwa et sur Muzihirwa. on nous disait qu'il restait encore autour de 70. Alors là, on commençait vraiment à avoir un peu des soucis, parce que Rome tenait à ce que tout ce qui a été dit sur Mosiroa, il les trouve. Et tout ce qui Mosiroa a écrit, pour voir si il n'y a rien contre la foi et la morale.
Alors, monsieur l'abbé Canosire, tout marche comme sur des roulettes.
Le postulateur nous a donné une bonne nouvelle pour dire qu'il a pu travailler pendant tout l'été avec trois confrères jésuites. Et il y a des documents, même des sources intéressantes à la cause, qu'il a pu découvrir à Rome et dans les archives de la Curie jésuite et qui lui a permis suffisamment d'avancer. Et donc, jusque-là, il est en train de faire un rapport sur les écrits de Mosiroa. Après avoir analysé ces rapports, il va les présenter, n'est-ce pas, au rapporteur général de la cause. C'est un spécialiste en histoire et archivistique nommé par Rome pour accompagner la cause. Parce que quand Rome trouve que la cause est sérieuse, il nomme quelqu'un pour pouvoir l'accompagner et aussi pour pouvoir enlever les doutes ou les difficultés éventuelles.
Peut-on comprendre par là, monsieur l'abbé, que la cause Mosiroa est à sa phase terminale?
Maintenant, c'est à la phase terminale. Nous avons des phases. Il y a la phase diocésaine qui est terminée depuis 2018. Maintenant, il y a la dernière phase, la phase romaine, au cours de laquelle il doit être proclamé martyr. Mais comme j'ai dit, pour proclamer quelqu'un martyr, on doit voir tout ce qui a été écrit par lui et tout ce qui a été dit sur lui, et on doit tout analyser et interroger tous les témoins.
Une fois proclamé martyr par le Saint-Siège, est-ce que cette proclamation pourrait influer quelque part pour que la justice transitionnelle soit très bien suivie par la communauté internationale?
Nous, on ne regarde pas du côté de la justice transitionnelle. La proclamation de quelqu'un comme martyr est un événement ecclésial, pastoral et spirituel d'abord.
Monsieur l'abbé Canosire, je vous dis merci.
Merci pour Radio Okapi.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition de l'après-midi sur Radio Okapi. Un journal mis en onde par Billy Landry Betou, un journal coordonné par Élisée Chikota. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. Je vous laisse en compagnie de Kanish Mukongo pour le journal de sport.